Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Désart et Gérard Gachet, nous recevons Laurent Dandrieux, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'Église, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, préfacé par Mathieu Boccoté, paru chez Arthège. C'était en 2022, et puis Église et immigration, le grand malaise, aux presses de la Renaissance. Laurent Dandrieux, on a parlé de l'indifférence, on a parlé de cette poussée des baptisés, qui reviennent pour une petite partie, très petite, mais croissante dans les églises. En face, il y a beaucoup d'indifférence, mais il y a aussi parfois une hostilité absolument incroyable. Des églises attaquées, taguées, abîmées, des tombes cassées, du satanisme, enfin, vous connaissez ça, on en parle vraiment très régulièrement. Il y a même des incendies criminels. Alors parfois, on ne sait pas d'où vient l'incendie, mais parfois, on sait, et ça vient. Comment est-ce que ça s'explique? Comment est-ce que vous expliquez que finalement, une religion qui n'est pas dominante, qui n'est pas écrasante en France, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il y a un petit sursaut, provoque une hostilité qui soit à ce point violente.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une dimension un peu diabolique. Hein. On sait que quand il y a de la foi, eh bien, il y a le diable qui s'énerve et qui n'est pas content. Donc, d'une certaine façon, cette vague ou cette vogue d'incendie d'église est peut-être la contrepartie d'un nouvel essor spirituel qui doit un peu agacer Belzébuth. Il y a, bon, les vieux laïcars, toujours, c'est toujours frappant, hein, quand il y a une pétition pour faire déplacer un crucifix, on s'aperçoit que derrière, il y a l'association locale de la libre pensée, qui compte à peu près 3 adhérents dans la commune en question, qui sont tous Kakoshim.
Oui, et qui remuent ciel et terre, et surtout les tribunaux.
Mais qui sont, à mon avis, les idiots utiles de ce que mon excellent ami Mathieu Boccoté appelle le régime diverticitaire. D'ailleurs, c'est un sujet très précis que nous abordons dans le livre que je publie avec lui, un livre d'entretien que je publie avec lui le 22 avril chez Fayard.
Un nouveau livre.
Et il explique très bien qu'en fait, le régime diversitaire, donc cette espèce de religion multiculturaliste qui s'est imposée dans les sociétés occidentales, veut effacer toute trace des cultures originelles des peuples de souche. Et donc en France, c'est évidemment le christianisme, qui est une part très importante de cette culture originelle, qu'il faut effacer de manière à ce qu'il n'en reste plus que du folklore. Et cette volonté d'effacement n'a aucun rapport avec la puissance réelle de la culture en question. C'est-à-dire que c'est en tant que symbole de la culture française originelle que le christianisme doit être effacé, et non pas en fonction de sa puissance réelle sur la société. Et ça me paraît très juste. Ça explique pourquoi il y a une telle hostilité vis-à-vis d'une religion qui, de fait, malheureusement, aujourd'hui en France, n'est plus que résiduelle. On le voit parce qu'on parle des incendies d'église, mais il y a quelque chose, moi, qui m'attriste beaucoup plus, c'est l'acharnement de certains maires à vouloir faire détruire l'église de leur commune sous prétexte de finances publiques qui ne seraient pas suffisantes pour payer les restaurations. Mais quand on se penche sur la question, on s'aperçoit que le coût supposé de ces restaurations a été très largement majoré par le maire en question pour bien montrer à tout le monde que c'est absolument impossible, alors qu'en réalité, quand la population se dresse pour résister à cette, on trouve des solutions beaucoup tout à fait praticables.
Ils sont très attachés à leurs églises, les gens dans leur village.
Il y a effectivement dans nos élites, et parfois malheureusement aussi dans nos élites cléricales, une espèce de passion de la destruction et de l'effacement des signes de l'ancienne chrétienté.
Combien d'églises en France
dans notre pays? Alors, c'est très compliqué, mais on peut dire que, sachant qu'il y a
une église par village,
36 000 communes, il y en a facilement le double ou le triple, sans compter les monastères. Bah, je dis ça à la louche, je réfléchis à voix haute.
Fille aînée de l'église. Ouais. Damien Chalamel.
Oui, moi, il me semble que une des explications, quand même, c'est la dimension proprement française de cet antichristianisme. Parce que La sécularisation.
On parle beaucoup d'antifa, de...
voilà. C'est un héritage révolutionnaire, c'est certain.
Voilà.
C'est
ça. C'est-à-dire que parce que la sécularisation massive, elle a lieu partout en Europe, il n'y a aucun pays qui échappe. Mais en revanche, les actes antichrétiens contre le patrimoine chrétien, c'est vraiment quelque chose de français. Quoi. Alors... Et en plus, on a des représentants, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qui sont vraiment encore animés par cet anticléricalisme rabique.
Ouais, ouais.
Donc il y a vraiment, voilà, bon, c'est le sort de la France. Hein, ouais.
Mais c'est lié aussi, et c'est probablement pas un hasard que la Révolution française ait eu lieu en France, si vous me permettez cette tautologie, c'est que effectivement, c'est que la France est la fille aînée de l'Église et que l'anticléricalisme s'y est donc déchaîné avec une particulière vigueur. Je voudrais faire une précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nombre de baptêmes qui augmente en France. Oui. Il n'augmente pas qu'en France. C'est intéressant de le souligner, même si l'ampleur du phénomène est moindre ailleurs, mais on commence à l'observer aussi en Italie, en Angleterre, au Canada, même en Belgique, vraiment, qui est un pays totalement sinistré du point de vue religieux.
Ah oui.
Mais
ah oui,
voilà,
c'est
un frémissement qui commence à devenir un peu propre à tout l'Occident ex-chrétien.
Ouais, donc c'est vraiment une réaction quand même à l'évolution de l'Occident
pour
chrétien.
Pour moi, c'est la modernité qui est à bout de souffle. C'est vraiment ça l'explication
majeure. Et puis il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, des conversions au catholicisme. J.D. Vance en est un exemple, vice-président américain, d'une certaine élite en réalité, plutôt anglo-saxonne, plutôt baignée dans le protestantisme. Alors, je mets de côté les Américains d'origine hispanique, pour qui c'est plus culturel, mais ou les descendants d'Irlandais. Mais il y a une fraction non négligeable d'une certaine élite américaine qui se convertit au catholicisme, au même titre d'ailleurs que certains anglicans rejoignent la maison mère.
En Angleterre, c'est intéressant parce qu'il y a une hausse de baptême, y compris chez les anglicans. Mais en revanche, elle est beaucoup plus vive chez les catholiques et il y a beaucoup de conversions dues de l'anglicanisme au catholicisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Angleterre, il y a plus de catholiques pratiquants que d'anglicans pratiquants. Et ça ravive des débats sur la question de savoir est-ce que l'anglicanisme doit rester la religion d'État.
C'est la revanche de Thomas More, alors.
Incroyable. Oui, la revanche, c'est exactement ça. Cette mutation quand même de l'Église, elle vient avec, après pas mal d'errances, on en a parlé, l'Église de France, est-ce qu'elle en a fini avec cette utopie de la mondialisation heureuse où les nations se dépasseraient elles-mêmes, et je parle de votre livre, Rome ou Babel, c'était quand même c'était là-dessus, pour arriver à une certaine forme de communauté universelle où se réaliserait concrètement l'unité du genre humain.
On est en train de...
On a balayé cette
affaire. Non, ce serait vraiment très optimiste de dire cela, parce que c'est quelque chose qui vient de loin. Dans ces deux livres, mais particulièrement dans Rome ou Babel, je montrais à quel point cette corruption de l'universalisme chrétien par le mondialisme remontait à loin et au moins aux années 60. On en trouve des traces très fortes dans les textes de Vatican II, c'est dire qu'on n'est pas prêt d'en être débarrassé. Et c'est une vision du monde et de la religion, malheureusement, qui a été dominante dans l'Église pendant des décennies et des décennies, et donc ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps avant de s'en débarrasser. Et il faudrait que des théologiens s'en emparent et remettent les choses à l'endroit. Moi, je l'ai fait avec mon petit point de vue de journaliste, mais évidemment, j'ai aucune autorité théologique. Et c'est dommage que, effectivement, de grands théologiens ne se soient pas encore emparés de la question, parce qu'il faudra bien ça pour inverser le cours des choses. Le philosophe Pierre Manon a été jusqu'à dire que l'Église s'était convertie à la religion de l'humanité, ce qui me paraît à la fois tragique et assez vrai. Donc il faudra une conversion en sens inverse. Là, il y a un premier pas quand même extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on est sorti d'un pontificat qui était un pontificat d'horizontalité absolument presque totale,
dans lequel le pontificat,
le pontificat qui a été ouvert par le pape François, qui est une espèce d'autre Macron en fait, parce que vraiment il pratiquait en même temps de manière incroyable, puisqu'il a ouvert son pontificat en disant qu'il fallait pas que l'Église soit une ONG, et tout ce qu'il a fait pendant son pontificat, ça a été d'accélérer la transformation de l'Église en une ONG. Mmh. Et là, Dieu merci, nous avons un nouveau pape Léon XIV qui lui a une vision résolument christocentrique, replace le Christ au centre de toute chose, replace la spiritualité au centre du discours chrétien, et je ne dis pas que ça va suffire à stopper la dérive mondialiste de l'Église, mais en tout cas ça nous donne un air d'oxygène, une bouffée d'oxygène spirituel tout à fait importante et bienvenue.
Je rappelle que nous sommes avec vous, Laurent Dandrieux, un journaliste à Valeurs Actuelles et écrivain. Les auditeurs vous connaissent, hein. Vous avez écrit Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné et Église et immigration, le grand malaise. Gérard Gachet avait une question pour vous, et puis ensuite Jean-François Coulon-Desarts.
Oui, qui est en lien avec ce qu'on vient de dire sur la personnalité du pape Léon XIV. Et on a dit tout à l'heure qu'un des grands défis de l'Église de France était de faire revenir à elle les catholiques traditionnalistes, comme on les appelle souvent. Alors, on nous avait présenté le pape Léon XIV comme étant au départ dans la ligne du pape François. Or, il semble qu'il ait sur ce plan-là, au moins, et sur d'autres aussi, une attitude tout à fait différente, puisqu'on se souvient quand même, par rapport aux catholiques traditionnalistes, d'une hostilité parfois virulente du pape François, très marquée. On se souvient de l'affaire du séminaire de Toulon, avec Monseigneur Rey, qui a été évêque du Var, qui a été poussé à la démission il y a un an, en janvier 2025. On se souvient, alors que là, aujourd'hui, avec Léon XIV, on voit qu'effectivement, il vient d'envoyer un message aux évêques de France le 18 mars dernier, où il appelle les évêques à inclure généreusement, ce sont les termes employés, les catholiques traditionnalistes. Et ceci après avoir autorisé en octobre de 2025 le pape Léon XIV une messe traditionnaliste au sein du Vatican. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même un renversement
de ce point de vue-là vis-à-vis des traditionnalistes
par rapport à ce qu'était le pape?
C'est peut-être encore un peu tôt.
Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais il y a un changement d'ambiance évidemment très net. Pour le moment qui ne se traduit pas par de véritables décisions. Je pense que le pape Léon XIV est beaucoup plus que l'était François, qui était véritablement un pape dictateur avec toute la brutalité que ça implique. Léon XIV, lui, est un pape très soucieux d'unité. Ce qui suppose effectivement qu'il veut arriver à une forme de réconciliation avec les traditionnalistes, ce qui suppose aussi que, contrairement à François, il ne dira pas exactement l'inverse, il ne fera pas exactement l'inverse de son prédécesseur. Il ne va pas piétiner brutalement et directement l'héritage de François. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il abroge ce motu proprio que je juge pour ma part inique, si je puis me permettre, qui est traditionnis custodes. En revanche, il va certainement chercher des moyens, et je pense qu'il a commencé à travers cette lettre aux évêques de France à trouver des moyens de le contourner de manière à prôner une plus grande bienveillance, mais c'est compliqué parce qu'on sent bien qu'effectivement, il y a autour de lui, et pas spécifiquement autour de lui, mais en tout cas au sein du Vatican, des gens qui commencent à dire « Oui, mais si vous êtes trop bienveillant avec ces gens-là, attention, vous êtes en train de favoriser des adversaires de Vatican II, c'est très mal. »
D'ailleurs, le pape lui-même subordonne cette bienveillance à la reconnaissance de Vatican II, quelque part. Non, vous parliez tout à l'heure, Laurent Dandrieux, de spiritualité. Alors moi, je voudrais parler de spiritualité matérielle, pardon pour l'oxymore. Mais depuis la loi 1905, ce sont les communes qui doivent entretenir les églises. Et moi, j'ai été très frappé quand M. Grégoire a nommé une armée mexicaine d'adjoints au maire. Ils sont 36. Il n'y en a pas un nommé au patrimoine. Le patrimoine, c'est les églises. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion?
C'est très significatif, effectivement, de la même façon que quand on a un gouvernement de gauche, on s'aperçoit tout à coup qu'on n'a plus de ministère de la famille. Voilà, on voit bien quelles sont les priorités de ces gens-là. J'ai publié un article récemment dans Valeurs Actuelles où je faisais le vrai bilan de Jack Lang au ministère de la Culture, et je rappelais que sous son ministère, eh bien, les crédits alloués au patrimoine avaient fondu comme neige, alors même que le budget de la culture était en pleine expansion. Oui. Et que le dit Jacques Lang, aujourd'hui même, continuait à s'en vanter. Je veux dire, oui, je suis très fier d'avoir privilégié la création et les arts vivants plutôt que le patrimoine. Donc voilà, c'est clairement des choses qui ne font pas partie de leur priorité. Et non seulement ça ne fait pas partie de leur priorité, mais on a bien vu à travers les deux mandats d'Anne Hidalgo, à quel point son équipe, tous les gens qui l'entouraient, avaient une véritable détestation du beau. Ils ont viré tout le monde.
Mais il y avait quand même une adjointe au patrimoine, qui était Mme Karen Taïeb,
oui,
qui faisait comme elle pouvait à peu près
effectivement,
son travail.
Je crois qu'elle a fait de son mieux. Ouais. Mais quand vous remplacez le mobilier Maurice par des tas de gravats et des choses comme ça, vous sentez bien qu'effectivement...
Même les kiosques à journaux qui étaient ravissants, c'est
bien,
devenu affreux, en plastique affreux.
Vous sentez
affreux,
bien que le beau n'est pas votre préoccupation
immédiate. J'avais orchestré une campagne à l'époque dans un journal contre ces kiosques horribles.
Or, effectivement, oui, l'entretien des églises parisiennes coûterait cher parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'elles sont nombreuses et très belles. Mais par ailleurs, quand on voit un certain nombre de conneries, passez-moi le mot, dans lequel ils engloutissent l'argent de nos impôts, il y a largement de quoi financer la restauration de ce patrimoine. Oui.
Ah bah déjà, en coupant les subventions, Sarah Knafou l'avait très bien dit dans sa campagne, on subventionne tout un tas de choses, il y en a pour 300 millions d'euros.
Bah surtout,
on peut arrêter de subventionner et mettre ça dans les églises.
La
c'est très simple. Hein.
La moitié du budget du ministère de la Culture, c'est France Télévisions. Il faut quand même avoir ça. La moitié. 4 milliards.
Non mais Jacques Lang, pour revenir sur Jacques Lang, je le crédite d'une chose, c'est la loi sur le livre. Parce qu'il n'aurait pas fait ça, il n'y aurait plus de librairie.
C'est un de ses rares points positifs.
Voilà, on est d'accord. Fait.
Allez,
on
voudrait qu'on re-rentre dans l'église.
Et qu'on la remette au milieu du village.
Et qu'on la remette au milieu du village et de la conversation. Un de nos lecteurs, nous dit « Vatican II n'a-t-il pas été une opération de destruction de la foi et des valeurs catholiques ? Je suis intervenu avant les élections présidentielles de 2022 et le prêtre qui était à l'antenne d'une radio catholique de Paris a émis une brève objection » quand j'ai cité la figure de Jeanne d'Arc.
Radio catholique, il n'y en a qu'une, hein, c'est Radio Notre-Dame.
Voilà, et j'ajoute une deuxième question, alors c'est le rapport de l'Église au saint et donc à la foi traditionnelle. Deuxième question, c'est les marxistes, nos amis marxistes, Maurice Clavel, c'est vous qui aviez relevé cette citation de Maurice Clavel qui disait des catholiques des années 70 dans votre livre qu'ils avaient tellement peur d'être les derniers chrétiens qu'ils seront les derniers marxistes.
Et donc, c'est très vrai, c'est très vrai.
J'ai trouvé la formule c'est bien, ça. Assez sympa.
C'est fascinant.
Est-ce que c'est plus le cas ou est-ce qu'il y a toujours une certaine forme de patriotisme? En tout cas, j'ai l'impression que dans certaines églises, on recommence à prier pour la France.
Bien sûr,
extraordinaire.
Il y a une nouvelle génération de prêtres qui ressemblent plus à leurs fidèles qu'aux évêques, Dieu merci. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. C'est vrai que ce qui est très fascinant dans cette course à l'échalote qu'a l'Église à courir derrière la modernité, c'est qu'elle se convertit toujours à un aspect de la modernité au moment où cet aspect de la modernité est en train de crever. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Église est devenue marxiste au moment où le communisme était entré dans sa phase finale. L'Église, ensuite, n'étant plus marxiste ou plus officiellement, est devenue mondialiste au moment où le mondialisme connaît une crise sévère et peut-être est en train d'entrer en agonie.
Il va peut-être devenir macroniste, là.
Alors, je ne sais pas, peut-être que l'écologisme, peut-être que ça veut dire que l'écologisme va rentrer en agonie aussi très bientôt.
L'Église ne devienne pas patriote, donc si j'ai bien compris.
Voilà. Mais l'Église est patriote par nature. L'Église est patriote par nature, ça c'était, j'y ai consacré un chapitre de mon livre Église et immigration. Ça fait partie de sa doctrine et de son essence même, parce que l'essence de l'Église, c'est de s'adresser aux gens à travers leur culture particulière.
C'est ça, vous citez le catéchisme de l'Église catholique qui dit « ceux qui pratiquent l'amour est le service de la patrie
». S'adresser à chacun d'entre eux.
Oui.
Très important.
Il y a un texte magnifique que je recommande à tout le monde de lire, c'est le dernier livre de Jean-Paul II qui s'appelle « Mémoire et identité ».
Ah oui, ça c'est merveilleux.
Et il y a un chapitre sur pourquoi est-ce que le Christ s'est incarné dans la nation d'Israël. Et il montre très bien qu'en fait, le message de salut qu'est venu apporter le Christ, qui est évidemment par essence un message universel, est un message qui est adressé à chacun à travers sa nation, son peuple, sa culture particulière. Mmh. C'est un texte absolument magnifique.
C'est une encyclique très très riche sur l'amour de la patrie. C'est vraiment un...
C'est pas une encyclique, mais ça mériterait de l'être.
En tout cas, c'est un livre qui est sur l'amour de la patrie, qui est très touchant.
La phrase dont je me souvenais, c'était « Défendez votre identité comme la prunelle de vos yeux ».
Oui, c'est « Défendez votre identité nationale
comme
la prunelle de vos yeux ». Laurent Dandrieu, la campagne présidentielle qu'on va aborder,
c'est ce que je me suis laissé dire
maintenant, vous avez entendu ça, va beaucoup tourner autour de l'immigration. C'est une
cas,
évidence. Ouais. Donc je rappelle que vous avez écrit ce livre, Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne, aux presses de la Renaissance. Quelle est la genèse de l'accueil du migrant qui est devenu véritablement le commandement suprême dans l'Église classique, l'Église de nos campagnes et de nos villes.
Et c'est un vaste sujet.
Oui, pardon. Et est-ce que ça passe un peu? On n'a pas l'impression.
Alors, ça va devenir moins obsessionnel que sous le pontificat de François, parce que François, c'était vraiment... ça a été un pontificat migrantocentrique, si je puis dire. Le problème, c'est que c'est devenu une nouvelle religion. Je soutiens dans mes livres la thèse que, effectivement, il s'est développé dans l'Église une théologie du migrant qui considère le migrant comme les marxistes considéraient le prolétaire, c'est-à-dire une forme de rédempteur du genre humain qui va favoriser l'entrée dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'unité de la famille humaine. C'est-à-dire que l'unité de la famille humaine, qui est par définition une composante essentielle de l'universalisme chrétien, puisque nous sommes tous frères, étant tous fils de Dieu, mais c'est une unité qui a toujours été considérée comme spirituelle, qui ne préjugeait absolument pas de la séparation, de la fin de la séparation des peuples en nations, qui, comme Benoît XVI l'a rappelé très justement, est une volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons séparés en peuples et en cultures différentes. Et donc, cette unité dans les années 60, c'est une unité du genre humain, est passée du plan spirituel au plan politique. Et l'Église a cru, à ce moment-là, de son devoir de favoriser l'unité effective du genre humain par une forme de mondialisation qui conduirait à terme à un gouvernement mondial. Et ça s'est dit très explicitement dans des textes du magistère que je décortique dans mon livre. On considérait que les migrations de masse étaient quelque chose d'extrêmement positif parce que ça allait accélérer ce mouvement d'unité du genre humain. Et malheureusement, c'est un discours qui a été largement développé, accentué, aggravé par le pontificat du pape François et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. J'avoue que quand j'ai écrit mon livre Église et Migration, je me disais, je vais pouvoir m'appuyer sur des écrits d'auteurs anglo-saxons qui ont certainement abordé ce sujet avant moi. Je n'ai pas trouvé un livre au monde qui traite ce sujet. Et je me suis senti un peu seul. Évidemment, moi, avec mes petits bras musclés, je n'ai pas suffi à inverser le courant.
Cette théorie sur les migrants et l'unité du genre humain, elle ressemble par moments aux théories de M. Mélenchon sur la créolisation générale, le fait que nous allons tous vers ce modèle indépassable.
On pense au mondialisme et au racisme.
L'Église a rejoint ce que Pierre-André Taguieff a baptisé de parti immigrationniste, effectivement, et sur ce plan-là, malheureusement, en tout cas sous le pontificat de François, elle s'est trouvée en consonance et en résonance parfaite avec le discours, entre autres, de la France insoumise, oui, malheureusement.
Est-ce que le pape Léon XIV est plus attentif que son prédécesseur aux chrétiens d'Orient?
C'est une très bonne question. Je saurais pas vous répondre parce que il me semble pas qu'il ait pris beaucoup la parole sur le sujet
encore,
en ce moment. C'est un sujet terriblement difficile, et j'avoue que je ne jette pas autant la pierre que d'autres au pape François, parce que c'est un peu l'histoire du silence de Pie XII qui se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a des silences qui sont aussi des prudences, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le problème aujourd'hui pour les chrétiens qui se trouvent en Orient, c'est d'être assimilés au monde occidental, trop nettement. Et s'ils sont perçus par les musulmans qui les entourent comme des ambassadeurs du monde occidental, ça n'est pas bon pour eux.
Ça s'appelle la croisade.
Et donc, c'est vrai que le risque de prendre trop nettement publiquement la défense des chrétiens d'Orient est d'aviver encore plus l'hostilité qui se déchaîne contre eux. Donc, ce sont des sujets à prendre avec des pincettes.
Laurent Dandrieu, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour votre visite, vous revenez quand vous voulez.
Ah,
je rappelle
vos
livres Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné, préface de Mathieu Bock-Côté. Il est paru chez Arthège en 2022. C'est vraiment le catholicisme et le christianisme face à la mondialisation. Hein,
tout
on peut résumer
fait.
Ça comme ça. L'Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de la civilisation européenne. Alors là, c'est l'Église face à l'immigrationnisme et ce dont on vient de parler à l'instant.
Et le prochain.
Et le prochain. Voilà, alors, rappelez-nous.
Qui est un livre d'entretien avec Mathieu Bock-Côté qui s'appelle Le pessimiste joyeux. J'ai trouvé cette manière de caractériser Mathieu Bock-Côté. Je trouve que ça lui va assez
bel
bien.
Bel oxymore.
Et ça paraît donc le 22 ou 24 avril, je ne sais plus, c'est un
donc
mercredi, aux éditions Fayard.
Aux éditions Fayard.
Voilà.
Magnifique. Eh bien voilà, l'annonce est faite et on se précipitera. Merci Laurent Dandrieu. Nous allons parler, du drapeau européen qui est encore une fois dans le collimateur.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Désart et Gérard Gachet, à peine élu, le nouveau maire Rassemblement National de Carcassonne, Christophe Barthès, est monté à l'étage de sa mairie pour retirer le drapeau européen qui flottait au fronton de l'hôtel de ville. Le geste symbolique du maire de Carcassonne a été suivi par d'autres maires de son mouvement. Brian Masson à Cagnes-sur-Mer, c'est dans les Alpes-Maritimes. À Arnes, dans le Pas-de-Calais, un autre maire. Ou la très jeune Carla Muti à Canoës, dans les Pyrénées-Orientales. Ces gestes, donc ces décrochages de drapeaux européens, ont suscité un véritable tollé de la part de la Macronie et une attaque en règle du député Génération Benjamin Lucas. Je voudrais qu'on l'écoute.
Le drapeau européen, les dérangements sur la fiche de paye des emplois fictifs de M. Bardella pendant des années et sur le détournement massif de fonds publics pour lesquels Mme Le Pen est actuellement en procès. Voilà, on voit bien des élus qui ne respectent rien. Ils en ont fini avec la fameuse stratégie de la cravate, de la respectabilité. Vous avez en réalité aujourd'hui des gens qui se comportent de façon tout à fait violente, avec un certain nombre de symboles, notamment dans des territoires qui bénéficient de la solidarité européenne, des aides européennes. Et donc on voit bien que toute la stratégie médiatique de communication construite par Mme Le Pen depuis des années pour dire « il n'y aura pas de Frexit, nous sommes des gens responsables, respectables », s'écroule dès qu'on leur permet, dès qu'ils accèdent à des responsabilités, notamment locales. Ça préfigure malheureusement ce que serait une victoire de l'extrême droite à l'échelle nationale l'année prochaine, et voilà pourquoi nous la combattons.
Voilà la rage du député Génération Benjamin Lucas, voilà, je cherchais son nom, furieux, absolument furieux, vous l'avez entendu, qu'on décroche le drapeau européen de certaines mairies du Rassemblement National. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi tant d'attachement de l'ultra-gauche ou de la gauche, il est très à gauche, hein, c'est pas LFI, mais pour le drapeau européen, Gérard Gachet.
Moi, je trouve l'argumentation de ce député très mauvaise, parce qu'après tout, si un certain nombre de régions, de villes, de départements bénéficient de fonds européens, ces fonds européens, ils ne sortent pas de n'importe où. Ils sortent aussi de la contribution, notamment de la France et des États membres, à l'Union européenne. Donc, enlever le drapeau européen, ce n'est pas bien, parce que dans ce cas-là, il faut refuser les fonds européens. Je trouve que c'est un argument tout à fait stupide. Mm-hmm. En revanche, je ne suis pas enthousiasmé par le fait d'enlever les drapeaux. Pourquoi ? Parce que je trouve que, certes, c'est symbolique, mais c'est un geste un peu puéril. Après tout, la France est... Ou alors, on fait le Frexit et on sort la France de l'Union européenne. Mais à partir du moment où la France est membre de l'Union européenne, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait le drapeau européen au fronton de nos mairies. En revanche, je trouverais beaucoup plus important de s'attaquer aux vrais problèmes dans notre relation avec l'Union européenne. Par exemple, inverser le principe qui veut que le droit européen l'emporte sur les droits nationaux, que les juridictions supranationales européennes l'emportent sur les tribunaux français. Enfin, Damien Chavel sera mieux placé que moi pour en parler, mais je trouve que ça, ce serait une vraie façon de remettre en cause ce qui ne va pas en Europe. À partir du moment où on dit nous ne quittons pas l'Europe, mais nous souhaitons la réformer de l'intérieur, je pense qu'il vaudrait mieux s'attaquer à ce type de problème plutôt que d'enlever les drapeaux, ce qui est un geste un petit peu facile et un petit peu démagogique à mon sens.
Je suis d'accord avec, avec ce que vient de dire Gérard.
Juste une
précision, cher Gérard, c'est que le drapeau européen au fronton des mairies n'est pas obligatoire. C'était le référendum de 2005, c'est pas obligatoire. C'est devenu non pas une mode, je n'arrive pas à trouver le mot juste, mais c'est pas obligatoire. Donc ces maires qui ont enlevé leur drapeau européen ne seront pas sanctionnés. On peut rien faire.
Et sont dans leurs droits.
Mais je crois qu'entre entre l'ORN, il y a deux voies divergentes. Il y a ceux qui veulent garder les drapeaux européens, puis il y a ceux qui les enlèvent. Et je pense que dans le parti, ils ne sont pas tous sur le même...
En tout cas, Marine Le Pen a fermement soutenu ceux qui l'avaient enlevé.
Voilà.
Damien Chalamel.
Non, moi, je suis ravi de la décision de ce maire et j'engage les 36...
C'est maire.
Ces maires et j'engage les 36 500 maires de France à faire de même, ainsi qu'à se séparer de ce drapeau ukrainien tout aussi insupportable. Pour ceux qui ont un peu de considération pour ce que...
Oui, mais le drapeau ukrainien, c'est vraiment symbolique. C'est pour ça.
Mais vous l'avez dit, c'est symbolique. Et c'était effectivement...
Mais toute une histoire de symbole.
Tout est une histoire de symbole. Alors, je vais finir, c'est que...
Certes, quand on parle
quand
de drapeau...
Quand on entendait ce...
Il n'a pas vocation à rester là. Mille ans, le drapeau ukrainien.
Bah, écoutez, il est là depuis bien trop longtemps. Et pour l'instant, personne n'envisage de le décrocher. Quand on a écouté cet obscur député, on comprend à la fois la niaiserie... et la violence de son propos, c'est parce qu'en fait, il y a les trois piliers, les trois vaches sacrées du macronisme qui sont le progressisme sociétal, l'immigrationnisme et le troisième de ces piliers, bien évidemment, c'est l'européisme béat. Et donc, effectivement, ce drapeau en est l'incarnation et le symbole. Ce drapeau pour lequel personne n'a voté, pour lequel aucun législateur... on a entrepris de rendre obligatoire, pour lequel personne n'est mort, en tout cas dans nos familles, et que je sache, on n'a pas encore fait la guerre au nom du drapeau européen. Donc, alors j'ai entendu, mais je trouve ça assez dérisoire, Marion Maréchal qui, elle, regrette cette décision parce qu'elle évoque le fait qu'effectivement, la référence à ces 12 étoiles est une référence à la...
Catholique.
Oui, est une référence, est d'inspiration...
J'ai été assez surpris, franchement.
Non, mais c'est vrai que c'est d'inspiration catholique chez le créateur de ce drapeau. Ce ne sont pas les États européens. Il y en a 27, et vous n'avez pas échappé qu'il y avait 12 étoiles. Donc c'est la Vierge miraculeuse, c'est ça en fait.
C'est ce à quoi ça fait référence. L'intention du créateur du drapeau me paraît moins efficace, on va dire, au sein de l'Europe que la volonté de ceux qui cherchent à écraser les nations qui la composent.
Exactement, mais de ce point de vue-là, je rejoins le président Mélenchon, qui lui, à la fois...
C'est nouveau ça.
À la fois par défiance vis-à-vis de la construction.
Il était très bien élevé ce garçon.
Le vendredi saint a des conséquences inattendues. Voilà. Rejoint Mélenchon.
À la fois par défiance vis-à-vis de la construction fédéraliste européenne et, alors là je ne le rejoins pas, mais enfin ce sont ses motivations, par antichristianisme rabbique. Lui aussi, il n'aime pas du tout ce drapeau, il voulait qu'on l'ait. Donc on le décrocha, notamment l'Assemblée nationale.
Par contre, ce drapeau est soutenu à bout de bras et toute plume dehors par toutes les huiles de la Macronie. Alors Nathalie, je voulais vous en citer quelques-unes, parce que vous allez voir, c'est comme si on leur avait coupé une jambe. Donc Nathalie Loiseau, à part ça...
C'est une huile, Nathalie Loiseau.
C'est une huile.
Qui n'est pas sainte.
Le RN ne souhaite pas le Frexit, mais bien sûr, dit-elle, Valérie Ayer, donc patronne des macronistes à l'Assemblée de Strasbourg, dans un geste gestes pseudo-patriotiques, les nouveaux maires RN retirent les drapeaux européens ukrainiens des frontons de leur mairie, ils s'opposent à l'Union européenne et veulent mettre fin à la contribution française. Un véritable Frexit qui ne dit pas son nom. Jean-Noël Barrot, parce que chaque fois qu'il y a une sottise à dire, on peut compter sur lui, a même estimé qu'il s'agit là d'une trahison de ce que nous sommes. Je répète, une trahison de ce que nous sommes.
Nathalie Loiseau, c'est tout de même à ceux qui l'ont connue à Sciences
Damien
Po,
Charamel.
Dans les années 80, elle aimait beaucoup, la croix celtique comme drapeau. À l'époque.
Bah, il paraît, c'était extraordinaire.
Ouais. Quand elle était à la tête de l'UED, de l'Union des étudiants de droite, à l'époque, c'était plutôt la croix celtique.
Bon monsieur.
Voilà. Voilà, non, mais donc on a une levée en masse de la Macronie pour défendre ce drapeau européen. Ça en dit long quand même. Moi, je ne les ai pas vus. S'époumoner comme ça lorsque on a par exemple craché sur le drapeau français, brûlé le drapeau français dans des soirées d'après-match dans les banlieues ou ailleurs ou pendant les grandes révoltes des banlieues.
Il y a une dimension symbolique, ce sont des vaches sacrées.
Ils n'ont pas réagi.
Vous auriez une critique virulente, je ne sais pas, vous allez brûler en place publique un drapeau LGBT, vous aurez le même genre de réaction. De réaction viscérale. Parce que vous touchez à quelque chose.
C'est ça, on sent qu'on touche un air extrêmement sensible.
Bien sûr. Et
comme
on est dans
le drapeau français, c'est ça
symbolique, la violence, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Il y a une forme, mais ce que ces abrutis, ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est que cette violence symbolique, elle est d'abord subie par ceux à qui on impose la présence de ce drapeau, qui ne l'ont jamais demandé. Et qui n'est, en toute hypothèse, pas obligatoire. Donc, qui était en fait la résultante d'une espèce de veulerie des 36 500 maires français, je le dis comme je le pense, qui se sentent obligés de pavoiser leur bâtiment, leur mairie en particulier, avec ce drapeau. Enfin, moi, ça me...
On sent bien qu'il y a un peu de France. Il y a une France qui rêve d'enlever le drapeau européen et de laisser le drapeau français, et une autre qui rêve d'enlever le drapeau français et de laisser le drapeau européen. C'est un peu ces deux France qu'on voit là, non ?
Non, moi je suis pas...
Jean-François Coulombe-Bézard.
Je trouve que vous êtes très sévère. il faut garder le drapeau européen. Et puis, dans chaque mairie, il y a le portrait du président de la République, donc d'Emmanuel Macron. À côté, il serait bien de mettre le portrait d'Ursula von der Leyen, je trouve. Comme ça serait... la boucle serait bouclée, ça serait très bien. Non, mais le vrai problème, c'est ce qu'a évoqué Gérard. Je veux dire, c'est on est européen, oui, de l'Europe qu'on nous propose depuis des années, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Il faut rebâtir tout ça, sinon tout ça finira par exploser. C'est ce qu'a expliqué Gérard, le vrai problème, il est là. Quoi.
Oui, mais les macronistes...
Qu'on soit inféodés, mais Macron rêve des présidents de l'Europe. Vous n'avez pas compris ça ? Il rêve d'être président de l'Europe.
Il rêve pas de reconstruire l'Europe, il rêve de la maintenir telle qu'elle
est. C'était le rêve de Giscard, avec sa constitution, il a trébuché, Macron en rêve.
Enfin, il a trébuché pas tout à fait, puisqu'elle a été adoptée pour l'essentiel.
Non, mais il voulait être président de l'Europe.
Oui, mais la Constitution nous a été imposée par la suite.
Imposée, ça c'est
voilà, alors vous voyez ce que dit Jean-Noël Barrot. Il dit « L'Union européenne, c'est la France qui l'a voulu, c'est nous, pour garantir la paix, pour préserver notre indépendance face à la pression grandissante des empires. » C'était pour ça, c'est raté, parce que on peut pas dire que l'Europe brille par sa montée en puissance face aux grands empires.
C'est un gentil garçon, Jean-Noël Barrot, mais il n'a pas le talent de son père, quand même.
Ah, ça, c'est certain. Et il rajoute encore, ce drapeau est celui d'un espoir possible, c'est le drapeau de la liberté, de la justice et de la démocratie. Et moi, je trouve ça intéressant qu'il dise, c'est celui d'un espoir possible.
Qui ? Le drapeau européen ?
Le drapeau européen ?
Non, le seul drapeau d'espoir possible, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Il faut qu'il arrête de dire des conneries, Barrot.
Mais voilà, non, mais si vous voulez, il montre quand même,
Ça s'appelle l'européisme.
L'européisme. Ils rêvent de remplacer le drapeau français par le drapeau européen. Quand on retire le drapeau européen, ils prennent ça pour une provocation absolument.
Il faudra passer sur le corps de beaucoup de gens. Quand
et quand François Mitterrand expliquait que l'Europe, entendre l'Union européenne, cette construction technocratique, était l'avenir des Français, il fallait bien évidemment en creux comprendre que si l'Union européenne était son avenir... Et bien que la France était son passé pour les pauvres Français. Et y a cette aspiration au dépassement des États-nations, il est au cœur du projet de construction supranationale depuis le traité de Rome. Hein.
Absolument.
Donc, depuis Jean Monnet et quelques autres.
Bien sûr. Voilà. Et là, on le voit assez nettement. Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez, mon cher Gérard Gachet. Vous disiez, à propos d'une petite citation de Valérie Ayé, là, qui revient là-dessus.
Ah, celle-ci, vous l'aimez pas.
Ah, je l'aime beaucoup, Valérie Ayé. Elle est franche, elle est merveilleuse. Elle est facile à analyser.
Donc, elle est fine. Très fine.
Ouais. Elle dit que, voilà, ça veut dire qu'ils vont rendre, donc ces maires RN, ils vont rendre les millions d'euros de fonds européens accordés pour le développement de leur territoire, l'aménagement des infrastructures, comme l'aéroport de l'Aude, les aides de la PAC, les aides sociales, etc. Ce qui est absolument d'une malhonnêteté absolument incroyable.
Intellectuel, c'est combien de milliards la France donne à l'Europe chaque année?
Parce que l'Europe va donner en 2026 autour de 30 milliards d'euros à l'Europe, et elle n'en récupérera...
Quoi, la France?
La France n'en récupérera que 24, c'est-à-dire au moins 6 de moins... Sinon 8, ça dépend des calculs qu'on fait. Mais au moins 6 milliards qui partent...
Souvenez-vous de Margaret Thatcher. Pardon, on n'est pas censé parler anglais ici, mais I want my money back. Je veux qu'on rende mon argent.
Je veux voir mon argent revenir.
Chirac avait dit, qu'est-ce qu'elle a la ménagère anglaise? Elle veut mes couilles sur un plateau? C'était ça qu'elle avait dit.
Eh bien, là, vous voyez, l'argent part et ne revient pas. Et il y a une espèce d'intoxication de la part de ces européistes sur la générosité de l'Europe. Non, c'est la France qui est généreuse vis-à-vis de l'Europe, et pas l'inverse.
J'ai une question à poser qui me paraît une question de bon sens. On donne 30 milliards. Attendez, on donne 30 milliards et on en récupère 24. Donc on en laisse 6. Pourquoi on ne donne pas que 6 si on gagne nos 24?
Ah ben oui, oui.
On ferait des économies de fonctionnaires, on ferait des économies de tout un tas de choses.
Oui, oui, mais...
Je comprends pas la logique.
Mais vous comprenez pas du tout la logique des européistes à ce moment-là.
Non, pas du
tout. Parce que eux, ça leur permet de jouer avec 30 milliards.
D'accord.
Et pas avec 6. Okay. Voilà. C'est la seule raison.
Mais c'est aussi que...
Bien sûr qu'elle soit très efficace.
Mais bon. Et de choisir, et de faire leur choix à eux, à partir de 30 milliards, et non pas...
Exactement, non, mais depuis 1957, les pays fondateurs... et ça n'a cessé depuis lors, ont toujours été, et les pays fondateurs les plus riches, des contributeurs nets.
Les Allemands, les Français.
Et à partir du moment où cette allergie, notamment avec l'Espagne, avec le Portugal, ensuite dans les années 90 avec les pays de l'Est, là ça a été la péréquation qui fait qu'effectivement, qui a énormément bénéficié, notamment aux pays d'Europe centrale, de même qu'elle avait bénéficié à partir de 86. Vous allez en Espagne, vous allez au Portugal, vous avez de magnifiques autoroutes qui souvent ont été construites avec des fonds européens.
Ça, c'est le principe de l'Europe, c'était de remettre
les
Européens,
c'est
ceux
que
qui n'étaient pas à un certain
le
niveau.
Le malade de l'Europe, c'est la France, si vous voulez. Donc, cette générosité, moi, personnellement, je ne la conçois pas particulièrement.
L'homme malade de l'Europe, c'est la France, mais l'homme malade du monde, c'est l'Europe. L'Europe est un continent, l'Union européenne a échoué sur le plan économique, dans des proportions absolutely considérables. C'est un désastre. On en avait parlé, mais on le réinvitera avec Christian Saint-Etienne, grand économiste qui était venu ici, mais il reviendra. Et il décrit ça comme un entomologiste, point par point, chiffre par chiffre, sur tous les domaines, et notamment dans le domaine industriel. C'est dramatique.
Parce que les dirigeants européens ont été... des adeptes, très longtemps, de ce qu'on a appelé la division internationale du travail.
Absolument.
Où telle région devait faire telle chose. Alors, et nous, on était là pour le tourisme, le tertiaire, en gros, etc. Mais on ne devait plus se spécialiser dans la production industrielle. Et depuis, on nous parle constamment de réindustrialisation, dont on ne voit pas d'ailleurs, franchement, les résultats.
Mondialisation heureuse.
On devait garder
la meilleure arme des Américains,
c'est
la mondialisation.
On devait garder les bureaux d'études en France et transmettre tous les ateliers, la fabrication, tout ce qui était idiot, soi-disant, à la Chine. Eh ben on a vu, on a transmis à la Chine les ateliers, puis une fois qu'ils ont eu les ateliers, ben ils ont pris les bureaux d'études aussi.
Non mais la Chine, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 90, c'est ça, les Français construisent la centrale nucléaire de Dayabei en Chine. Donc on leur fait absolument tout, le génie civil, évidemment la cuve nucléaire, etc. On fait une extension, les Chinois décident une extension à Dayabei 2. Là, on ne fait plus de génie civil, c'est eux qui le font. et on fait que la cuve. Ils ont fait une 3, ils n'avaient plus besoin de nous. Ce transfert de technologie a été terrible pour l'Europe.
Bien sûr.
Absolument terrifiant.
Ouais, la Chine a très bien joué là-dessus.
Très, très bien joué.
Alors, je voulais revenir à mes drapeaux. Le maire Rassemblement National de Cagnes-sur-Mer, donc qui s'appelle Brian Masson, a été rappelé à l'ordre, figurez-vous, par le préfet des Alpes-Maritimes après avoir retiré le drapeau de l'Union Européenne de sa mairie.
Oui, c'est obligatoire, il peut faire ce qu'il veut, le préfet, c'est obligatoire.
Incroyable. Et alors, Christophe Barthès, le maire de Carcassonne, qui a fait le plus de bruit, a dit à France Info, on n'a qu'à nous payer, nous paysans, hein, puisqu'il est agriculteur.
Un viticulteur.
Viticulteur, c'est ça. Le vrai prix de notre labeur, le vrai prix de nos céréales, de nos bêtes et de notre peine, on n'aura pas besoin d'avoir des aides dans la PAC. Et on comprend pourquoi il a décroché ce drapeau européen. C'est parce qu'il est viticulteur et qu'il voit l'Europe le ruiner jour après jour. Et on comprend qu'il n'est pas tellement...
Je me souviens de M. Barthès qui avait accueilli Marine Tondelier à du côté de Carcassonne avec une pancarte qui disait « Va faire la soupe ». Bon, et je passerai le...
Oui, passons.
L'épithète qui lui était attribuée. Mais enfin, il engageait vivement Madame Tondelier, au lieu de faire sa propagande, d'aller faire la soupe. J'avais trouvé ça merveilleux.
C'est un mot de paysan. Voilà, je voulais qu'on écoute la réponse de Marine Le Pen dans les couloirs de l'Assemblée. Je trouve qu'elle résume pas mal la question. Oui. Hein. Elle dit, à l'exception de ce que vous disiez, hein, Jean-François Coulon, à l'exception du 9 mai, journée de l'Europe, rien n'oblige un maire à pavoiser aux couleurs de l'Union européenne le fronton de sa mairie.
Les mairies RN qui ont supprimé le drapeau européen, est-ce normal ? Elles ont touché des subventions, ces mairies, notamment l'hôpital de Carcassonne.
Vous savez qu'il y a eu un référendum en 2005 qui a rejeté la Constitution européenne. Dans la Constitution européenne, il y avait le drapeau, l'hymne, etc. Rien ne prévoit la mise en œuvre de drapeaux sur les mairies, de drapeaux européens. Rien. Voilà. Et je ne vois pas le rapport avec les subventions. Vous voyez, hélas, l'Union européenne ne fabrique pas l'argent dans ses caves. Vous voyez, l'argent, il vient directement de la poche des Français. Et il se trouve que cette année, on leur enverse 6 milliards de plus, dont on aurait d'ailleurs bien besoin pour pouvoir agir sur les taxes, pour faire baisser les taxes sur le carbone.
Mais quel message politique vous voulez faire ?
Voilà, Marine Le Pen, donc, remettez les choses en place après cette espèce de mini-scandale qui a beaucoup affecté nos amis macronistes du décrochage de quelques drapeaux européens. Tous les maires Rassemblement National ne l'ont pas fait.
Vous avez entendu la suite ? Quel message politique, dit notre confrère, vous voulez faire passer ? Mais c'est un crétin, celui-là. Elle veut simplement remettre l'église au centre du village, c'est tout.
Voilà, la réponse, remettre la France devant l'Europe. Hein. Et donc, Monsieur Tanguy, qui répondait à Christophe Barbier, Jean-Philippe Tanguy, disait, c'est un peu la même idée, hein, il n'y a pas un euro de fonds européens, c'est systématiquement l'argent des Français détourné par Bruxelles, qui revient après qu'on nous envole 50%. J'ai trouvé que la formule était assez bien résumée. Hein, c'est l'argent des Français qui revient, mais après qu'on en ait capté 50%.
Oui, c'est à peu près ça. Quoi. En tout cas, 6 milliards.
Voilà. En tout cas, au sein du Rassemblement national, vous le disiez, hein, ça provoque certaines divisions. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est certain. Semble-t-il.
Division, le mot est peut-être un peu fort.
Hein.
Division, c'est un petit peu fort. Hein, c'est des réserves. Voilà. Bon, tout ça est anecdotique.
On parle d'un signal maladroit.
Tout ça est anecdotique, de toute façon. Donc,
regardons. Non, parce que c'est politique. C'est symbolique.
Ah oui, c'est important.
En fait, c'est doublement symbolique.
Non, je dis anecdotique. Quand on veut, parce que c'est la partie ennemie, entre guillemets, veut se servir de ce drapeau pour diviser le RN, etc. Je dis qu'au sein du RN, c'est anecdotique. Il y a une différence, mais il n'y a pas d'opposition.
En tout cas, c'est très symbolique, donc, à la fois de ce que veut dire ce geste, et également de ce qu'on peut changer avec un tout petit peu de force d'âme, un tout petit peu de courage, si quand on est élu maire, on nous célèbre la fonction du maire comme étant le premier magistrat de sa ville, beaucoup plus aimé que tous les autres hommes politiques de ce mandat de maire, là on a un maire qui fait exercice, qui exerce sa liberté, et bien c'est, de ce point de vue-là, c'est liberté en bas.
Absolument.
Liberté en bas, autorité en haut.
Premier magistrat de sa ville.
Je pense que le jour où Damien Chalamel sera maire d'une ville, lui mettra un magnifique portrait de Donald Trump sur le fronton de la mairie. Et là, on saura que le maire est là.
Celui-là, je le garderai pour mon hôtel personnel.
Vous mettriez un portrait de Trump
non,
à la mairie.
Mon trumpisme s'arrête.
La porte de votre mairie.
Voilà.
S'arrête à la frontière française. Alors, un auditeur nous dit « Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante et il faut remplacer le drapeau européen par le drapeau royal de Louis XVI, car la France est née sous les rois de France. » Voilà.
Bon, moi, je préfère le drapeau avec l'aigle impérial, donc soyons clairs.
Voilà, Jean-François Coulon-Désert, qui est le dernier bonapartiste.
Et on rappellera à notre chère auditrice que le drapeau bleu-blanc-rouge trouve en partie ses origines sous l'Ancien Régime.
Oui, le blanc, c'est le
blanc.
Voilà,
c'est
le blanc, mais même les autres couleurs ont une...
C'est la ville de Paris. Voilà. Les autres couleurs. Voilà. Le bleu et le rouge de Paris,
Saint-Denis.
Voilà. Enfin, en tout cas, en 1870, on avait considéré que ce n'était pas la peine de diviser à nouveau la nation sur une question de drapeau au moment du comte de Chambord.
Voilà. C'est Henri V, comte de Chambord, oui.
Voilà, il y a peut-être des choses plus pressées à faire en France. Non, mais je voulais revenir sur le débat au sein du Front National. Une source qui dit ça, une source anonyme dit à France Info, je l'aurais fait différemment, c'est quelqu'un du RN qui parle évidemment, et plus discrètement, certains de nos électeurs valident le geste, mais pas ceux qu'on veut attirer. On a conseillé aux autres maires de ne pas en faire un argument de communication. Voilà ce qu'explique un membre du parti, ce qui peut s'entendre. Voilà, c'est pas avec cette polémique qu'on va attirer.
Non, parce que la gauche,
c'est-à-dire la droite classique,
saute au cou du Front National, du Rassemblement National, pardon, ouais. avec ces histoires de drapeaux. C'est ça surtout. L'extrême gauche, comme vous savez, a beaucoup de médias.
Aucune chance de les attirer. Donc, c'est pas grave. C'est plutôt pour la droite républicaine, j'imagine.
Non, mais ils ont table ouverte dans beaucoup de médias. Donc, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là.
Oui, ouais. Cette droite européiste, elle est déjà. Vous en avez un exemple, Édouard Philippe, François Bayrou, en sont des exemples parfaits, mais on les laisse là où ils sont, et on les laisse avec Emmanuel Macron. Si tant est que le Rassemblement National est d'intérêt à séduire des électeurs de droite, dit de droite, il faudra définir ce que c'est, mais en tous les cas, c'est certainement plus la droite qui a voté contre Maastricht, et contre le traité pour l'Union européenne de 2005, que celle qui a voté pour.
Il y avait une bonne partie de la gauche qui a voté contre Maastricht. Toute la gauche, l'extrême gauche.
Et bien, c'est peut-être effectivement à ceux-là qui apprécieront le clin d'œil. Les Républicains, effectivement, de Chevènement, qui étaient extrêmement séduisants, et d'autres bords. Qui trouveront qu'effectivement cette démarche n'est pas inintéressante.
Mais vous avez parlé, Damien, là, de François Bayrou. Qu'est-ce qui devient, en fait ?
Damien Chalamel.
Écoutez, il est en retraite de la République.
il disparaît gentiment. Voilà, allez,
il s'occupe de ses chevaux.
344 voix.
Pour conclure sur notre question du drapeau, puis on va aborder notre petit chapitre culture. Je voulais simplement souligner que ce n'est pas la première fois qu'il est retiré du fronton des mairies, ce drapeau européen. Ça arrive même très régulièrement. En janvier dernier, en soutien aux agriculteurs et pour protester contre le Mercosur, plusieurs maires avaient décidé de retirer ce drapeau de leur fronton, dans le Finistère, dans les Vosges, en Normandie, à Valence, à Morlaix, dans des petites communes rurales. Donc, toute la mousse qui est faite autour de l'initiative de quelques maires Rassemblement National, elle a des précédents.
Mais vous, dans votre propriété du centre de la France, vous le retirez, le drapeau européen, ou pas ?
Ah, moi, il n'a jamais été, j'ai pas besoin de le retirer. Je n'aurais pas besoin de le retirer. En tout cas, en 2023, l'Assemblée nationale avait aussi voté l'obligation du drapeau européen sur les mairies de villes de plus de 1500 habitants. Et 3 ans plus tard, ce texte n'a toujours pas été discuté au Sénat, ce qui prouve bien qu'il y a des réticences quand même.
Il y a d'autres urgences peut-être aussi.
Il y a d'autres urgences. Et puis, dernier point, souvenez-vous, on en finira par là, de ce drapeau européen qui avait été déployé sous l'Arc de Triomphe par Emmanuel Macron. C'était en mars 2022 et c'était à l'occasion du sommet de l'Union européenne de Versailles.
Et malgré tout, il l'avait fait alors que le 31 décembre 2021, donc quelques mois auparavant, ça avait fait scandale déjà, cette mise en place d'un immense drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, alors qu'il avait mis ça pour célébrer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On voit bien que tout est bon pour mettre le drapeau européen, y compris sur la tombe du soldat inconnu.
Et mais là, ça avait vous savez, Macron fait ce qu'il veut.
Beaucoup de Français.
Pour finir sur ce chapitre, sur l'importance, si vous lisez la Constitution française, l'article 2, l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Et ça, on l'oublie beaucoup. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'article 2 qui dépend
du... Il ne fait pas mention du drapeau européen, vous êtes sûr?
Bien sûr que non.
Non, absolument pas.
D'ici, non. Et c'est l'article 2 qui fait partie du titre premier intitulé « De la souveraineté
». Voilà. Bah, donc voilà. Macron était hors constitution quand il a mis son drapeau sous l'Arc de Triomphe. Il a piétiné la constitution à ce moment-là.
Absolument. Absolument. Voilà, et bien ce sera la conclusion de notre débat sur le drapeau. Allez, on va parler culture.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, c'est l'heure de notre clin d'œil culture. Je rappelle que nous sommes avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Désart et Gérard Gachet. Qui a bossé un petit peu? Qui a lu? Qui a été au cinéma cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos chers auditeurs? Qui est volontaire? Jean-François Coulon?
Oui, si vous voulez, je le recommande à ce moment-là, le J'aime.
J'aime.
Great Egyptian Museum. Le grand musée égyptien. C'est au Caire. Il vient d'ouvrir. Et les Égyptiens ont fait œuvre de pharaon, comme d'habitude. Le bâtiment est absolument somptueux. Les collections, c'est le plus grand. Je crois qu'il est aussi grand que le musée du Louvre. C'est un musée absolument splendide. Très fluide.
Mais Jean-François Coulon-Désart revient du Caire.
Oui, j'étais en Égypte alors. Voilà. Oui, j'étais pour aller voir ce musée qui est absolument fascinant. Donc, et surtout très très bien conçu. Donc, même avec du monde, ça ne gêne pas. Alors que vous allez au Louvre, vous allez voir la Joconde, ce sont des salles. Si vous êtes au cinquième rang, bah, vous ne voyez rien. Là, tout est fluide. Et puis surtout, les pièces sont absolument extraordinaires. Ne serait-ce que tout en Camon, c'est absolument magnifique. Donc si vous allez au Caire, allez bien sûr voir les pyramides, c'est obligatoire. Mais surtout, le
Est-ce que vous recommandez l'Égypte? Et qu'est-ce que vous recommandez en Égypte?
C'est une civilisation absolument fascinante. Je veux dire, vous pouvez aussi aller à Assouan, la première cataracte. Vous allez sur l'île de Philae, où il y a un temple thémaïque absolument délicieux. On dirait une petite perle. Et ce temple, il est sur l'île d'Agilka, parce qu'il a failli... Ce sont les Français qui sont occupés de ça, sous l'ère Malraux, parce que le barrage d'Assouan, le temple était noyé 10 mois par an. Et on a décidé de le mettre sur une île à côté, à 300 mètres, l'île d'Agilka. On a terrassé cette île et on a reproduit, on a démonté le temple et on l'a remis sur cette île pour sauver ce temple, qui est absolument génial. Et les Français sont descendus jusque sous Bonaparte, c'était Desaix, puisque les Français ont gravé les noms de Desaix, du général, sur le temple, pour bien montrer qu'ils étaient descendus jusque-là. À Luxor, il pouvait passer sa vie à Luxor. C'est la vallée des rois, c'est extraordinaire.
Que reste-t-il de cette influence française
de notre Chalamel?
Eh bien, les Égyptiens aiment beaucoup les Français.
Et il y a la francophonie,
On a toujours
l'Institut français.
On a une bonne implantation en France, et puis on s'entend très bien avec les Égyptiens, ils aiment beaucoup nos rafales, ils en ont acheté un paquet quand même. Il y a une vraie... ces deux peuples qui marchent main dans la main.
Il n'y a pas d'antagonisme.
Mais c'est fascinant, l'Égypte, je conseille à tout le monde, si vous n'y avez pas été, chers auditeurs, allez faire un tour en Égypte. Ça ne risque rien, même avec ce qui se passe en ce moment, un peu plus loin, il n'y a aucun souci. Mais c'est magnifique, j'aime.
On retient la recommandation et
merci pour le billet aller-retour que tu vas nous offrir prochainement. Voilà.
Mais avec grand plaisir.
Voilà, on fera une cagnotte. Gérard Gachet, qu'est-ce que vous avez retenu pour le conseil culturel?
J'ai terminé hier soir un petit livre de M. Charles d'Azera. Et Charles d'Azera, vous le connaissez.
Ah mais oui,
puisqu'il y a 15 jours, grâce à Franck Herriot, nous l'avons reçu. C'est un des officiers du CPA-10, le célèbre commando parachutiste de l'air, unité d'élite de l'armée spécialisé dans les libérations d'otages, la neutralisation de certaines cibles ou la protection de sites ou de personnalités menacées. Et son livre est tout à fait passionnant, il s'intitule « À cœur ouvert, récit d'un commando du CPA-10 ». Il est paru aux éditions Mareuil et on en retire deux leçons. C'est un petit livre, il n'est pas très épais, mais on en retire deux leçons très fortes. D'abord, l'incroyable niveau d'exigence requis pour rejoindre et ensuite diriger une telle unité, exigence vis-à-vis de soi, de ses coéquipiers, mais aussi de ses proches et de sa famille. Et parallèlement, c'est plus surprenant peut-être, l'incroyable niveau d'amour que demande une vie aussi risquée et dangereuse. Amour de sa femme et de ses enfants, dans les deux sens, amour de son drapeau et l'amour de sa patrie. Et ce sont peut-être là les lignes et les pages les plus émouvantes de ce livre qui vous prend aux tripes et au cœur, comme son titre l'indique.
Bravo.
Le drapeau français.
Belle évocation, hein, de l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, c'est quand même plus fort que l'accrochage du drapeau européen.
Et il en parle dans des termes extrêmement émouvants.
Ouais, les trois couleurs, c'est le titre d'un livre de Job.
Jacques François Bréville. C'est un officier de troupes de choc, hein, oui, je crois. Absolument. Voilà. Alors, Damien Chalamel,
Je vais être un peu redondant, parce que vous l'aviez suggéré, et depuis je l'ai vu, c'est ce film Les rayons et les ombres. C'est ça, oui, de Xavier Giannoli,
oui,
avec Jean Dujardin. Vous en avez fait la publicité sans l'avoir vu. Bon.
Mais je l'avais dit, pas vu.
Donc, c'est une remarquable évocation de Jean Luchaire et de l'amour qu'il portait et que sa fille réciproquement lui portait. Corinne Luchaire, merveilleuse actrice d'avant-guerre, dont en réalité la carrière s'est interrompue en 1940 tout simplement parce qu'elle était atteinte comme son père de la tuberculose. Et donc, en réalité, ce film qui se passe sous l'occupation, mais avant tout en lumière, cette relation père-fille que je trouve magnifique. Alors après, bien évidemment, il y a en arrière-plan cette période trouble qui va voir des personnages comme Jean Luchaire se compromettre dans le collaborationnisme.
C'est un beau film, hein.
C'est un très beau film. Alors, il y a quelques erreurs historiques je pense qu'ils ont été faits sciemment, mais je comprends pas pourquoi elles n'ont été faites, mais bon. Mais ça, c'est une question qu'il faudrait poser au réalisateur. Parce que par ailleurs, c'est très fidèle de ce qu'on sait. Et il y a notamment ce personnage assez fascinant également, qui est Otto Abetz, qui est un personnage central du dispositif allemand, puisqu'il était
ambassadeur allemand
en France occupée, à Paris, quasiment sans interruption pendant 4 ans, qui a été francophone, marié à une Française, l'ancienne secrétaire de Jean Luchaire, et familier des milieux pacifistes d'avant-guerre, et donc de son ami Jean Luchaire, qu'il connaissait depuis les années 30.
Mais Giannoli est un grand réalisateur, hein. Les Illusions perdues, le film précédent était aussi remarquable.
Absolument, et on va le suivre de près parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Un petit mot d'auditeur, bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Et pensez-vous que ces goinfres de Delphine Ernotte et Nagui et Léa Salamé, animateurs-producteurs, seront sanctionnés pour leurs pratiques et leur enrichissement sur le dos du service public de l'audiovisuel français et des Français?
Ce qu'il faut déjà souhaiter, c'est que le rapport de la commission d'enquête parlementaire, que le rapport ne soit pas enterré.
Absolument.
Parce que ça dépendra d'un vote qui aura lieu prochainement.
Voilà. Et puis, un autre auditeur nous recommande d'inviter un identitaire européen. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un identitaire européen. Et il se propose qu'on l'invite lui-même. Voilà. pour finir, j'avais juste un petit livre à vous proposer. C'est un tout petit livre par la taille. Une biographie de Saint-Louis, modèle des chefs d'État. C'est le titre de ce livre qui est paru chez Via Romana. Il est écrit par François-Régis Le Grier, mais en réalité, c'est un livre qui est très grand par le propos, parce qu'on y lit toutes les recommandations, tous les concepts qui ont fait de Saint-Louis un grand roi par le gouvernement. Il a profondément marqué l'histoire de France, hein, celle de l'Europe aussi. Sa renommée s'étendait même en Asie, nous dit François-Régis Le Grier. Et il a vraiment structuré la France et son gouvernement. Et il a lancé vraiment la reconnaissance d'un État. Il a donné aussi... C'est lui qui a créé les Hôtels Dieu, l'hôpital des 15-20, la Sainte-Chapelle. Il a laissé un royaume qui a été pacifié et prospère sur le plan économique. Il n'exagérait pas ses victoires. C'est un livre très intéressant que je recommande à nos auditeurs. Allez, restons courtois du vendredi. C'est fini. Merci à tous. Merci à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, vous le savez, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Et aider Radio Courtoisie dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 10 avril à l'avant-veille de... Oui, on se retrouve le vendredi 10 avril, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30, sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.